Bienvenue aux enregistrements de l'Église chrétienne Source de vie. Nous croyons que ce message vous aidera à voir et à obtenir votre plein potentiel en Jésus-Christ. Bonne écoute.
Dieu est bon! Merci d'être ici. On est bénis en ce vendredi soir merveilleux. Comme j'ai dit tantôt, vous n'auriez pas pu être à un meilleur endroit qu'à l'Église Source de vie un vendredi soir. C'est merveilleux qu'on puisse se rassembler dans ce bel endroit à n'importe quel moment. Amen. Et louer un Dieu vivant qui ne change pas. Qui est ici pour la première fois ce soir, si vous voulez lever la main? Bienvenue, bienvenue. On a des gens qui sont venus de, c'est pas Saint-Tite, hein? Plus loin que Saint-Adèle. La visite de Saint-Adèle ce soir, bienvenue. Amen. Et d'autres visites de Trois-Rivières. Dieu est bon. Alors, sans plus tarder, je vais vous introduire notre invité, pasteur Donato Anzalone, qui, en fait, si je ne me trompe pas, et j'ai eu cette information de notre personne, donc si je me trompe, on pourra les blâmer. Pasteur Donato est belge, d'origine italienne, et il habite en Suisse. Yes! Woo! Donc, on est bénis de l'avoir au Québec ce soir. Et il est toujours demandé, quand il fait sa tournée, il voyage beaucoup. Il est pasteur d'une église en Suisse, mais il voyage aussi beaucoup, en plus d'avoir son église locale. Et quand il vient au Québec, il y a toujours une petite bataille. On prie tous en secret pour gagner la bataille avec Donato. Donc, on est bénis de l'avoir avec nous ce soir. Et donc, soyez attentifs. Dieu a quelque chose pour chacun de vous ce soir. Amen. Et pasteur Donato, on a un de ses livres aussi, « L'audace de la foi » de pasteur Donato qu'on a en vente ici. Donc, après l'avoir entendu prêcher, si vous dites « je veux en savoir plus » ou « j'en veux plus », vous pouvez acheter son livre qui est disponible à notre bibliothèque. Alors, Dieu est bon, pasteur Donato.
Amen. Buonasera a tutti. Et una gioia di essere con voi stasera. Si, si parla italiano stasera. No. Oh, I'm so glad to be here with you. Oh no, the wrong button. Allez, je suis très heureux d'être avec vous aujourd'hui. Je vais vous parler le belge. Hein? Luc, tu es de Belgique aussi, je crois. C'est une joie d'être avec vous ce soir. Waouh! Quel bel endroit dans lequel vous vous rassemblez. C'est vraiment génial ce que Dieu est en train de faire dans la vie de chacun de vous et aussi dans votre ville. Parce qu'une église en plus, c'est une opportunité en plus pour que plus de personnes puissent entendre Jésus-Christ. Et donc, c'est vraiment quelque chose de merveilleux. Merci à Dieu pour tout ce qu'il y a déjà et qui existe déjà à Trois-Rivières. Mais merci aussi à Dieu pour cette nouvelle œuvre qui est en train de vraiment faire ses racines ici dans la ville. C'est toujours une joie aussi de voir les pasteurs Brian et Suzy, on les aime beaucoup, je les connais depuis plus de 10 ans et je les ai toujours vus être fidèles dans leur église où ils étaient avant à Sherbrooke, c'est là que je les ai rencontrés, et de voir comment Dieu les bénit avec un ministère formidable ici, et le fait que vous êtes là, c'est la preuve, n'est-ce pas, que Dieu les bénit. Amen. Hein? Oui, vous avez ici mon livre. C'est mon premier livre, je suis en train d'écrire mon deuxième qui viendra à la fin de l'année. Celui-ci s'appelle « L'audace de la foi ». C'est un livre vraiment qui nous donne tous les outils nécessaires pour oser croire et obtenir ce que Dieu a promis. Waouh, c'est génial. J'ai reçu énormément de témoignages de ce livre. Une personne m'a écrit il n'y a pas longtemps qui m'a dit qu'elle a été tellement bénie par le livre qu'elle a réécrit tout à la main. Elle voulait perdre aucune des révélations qui sont dedans. Alors, c'est génial. Mon prochain livre s'intitulera « Comment voulez-vous passer l'éternité ?» J'ai bien dit « comment » et pas « où ». Le « où » est déjà clair. À partir du moment où vous êtes né de nouveau, vous irez au ciel. Amen. Si vous n'êtes pas encore certain, le premier chapitre vous dira « comment aller au ciel ?» Hein? Mais ce qu'on veut surtout, c'est comment on va vivre de l'autre côté. Comment on va faire. Et tout dépend de ce qu'on aura fait ici sur la terre avec et pour Jésus. Ou plutôt pour et avec Jésus. Amen. C'est rempli de révélations sur le royaume de Dieu. Je suis convaincu que beaucoup dans le corps de Christ ont été bénis par ce livre. Amen. Priez pour moi, parce qu'on a toujours besoin d'étudier, de travailler avec tout ce qu'on fait. En plus, comme l'a dit Suzy, non seulement je suis pasteur, non seulement je voyage, mais j'écris aussi et je suis déjà en train de travailler à mes 3 prochains livres qui sortiront à partir de 2020, 2021 et 2022. C'est un livre en 3 volumes. Amen. Ok, on a terminé maintenant de parler de ça. Maintenant, on va aller un peu plus loin. Amen. Ouvrez votre Bible avec moi dans Hébreux, chapitre 11. Lorsque on a le mot foi, il arrive d'avoir le mot impossible dans le même verset. Par exemple, la Bible dit, si tu as la foi comme un grain de sève, tu diras à cette montagne, transporte-toi de là et jette-toi dans la mer. C'est dans Matthieu, il est dit, et rien ne vous sera impossible. Amen, alléluia. Donc, par exemple, il est dit qu'à l'homme, c'est impossible, mais à Dieu, tout est possible. Amen. Par contre, dans Hébreux chapitre 11, il y a le mot foi et il y a le mot impossible avec. Et c'est très simple. 11, 6. Or, sans la foi, il est impossible. Avec la foi, rien n'est impossible. Mais sans la foi, il est impossible. Or, sans la foi, il est impossible de croire en Dieu, de plaire à Dieu, pardon. Parce que il faut que celui qui croit, croit que Dieu existe, mais ça ne suffit pas. La Bible dit que même les démons croient que Dieu existe et ils tremblent. On va faire trembler les démons ce soir. Amen. Hein? Les démons croient que Dieu existe et ils tremblent. Il est dit donc que sans la foi, il est impossible de plaire à Dieu, parce qu'il faut que celui qui croit en Dieu croit que Dieu existe et croit qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Ça veut dire qu'il est toujours quelqu'un qui récompense ta recherche. Rémunérer, ça veut toujours dire ajouter, ça ne veut jamais dire retrancher. Amen. C'est pour ça que quand quelqu'un me dit, tu sais, je ne comprends pas, parce que je croyais en Dieu et pourtant j'ai eu une opération et on a dû enlever mon sein. Dieu a enlevé mon sein. Non. Dieu ajoute, il ne retire pas. Un de mes amis était en Inde et c'était un homme qui il tenait à sa parole. Et il a toujours dit, à chaque fois que quelqu'un vient devant pour la prière, je lui imposerai les mains. Et ce soir-là, il y avait à peu près 3-4 000 personnes sous la tente. Et c'était le moment de la prière et les gens sont commencés et par toute la file, hein. Et puis, il s'est rendu compte que ça ne s'arrêtait jamais. Et il impose. Et il allait vite, hein. Lui, il faisait littéralement comme ça, hein. Et puis, au bout de quelques heures, il dit à son... Mais ils reviennent chaque fois ou quoi? Il dit, je sais pas. Il dit, va voir ce qui se passe. Et beaucoup de gens ont été guéris. Amen. Et à un certain moment, son équipe lui dit, ils ne reviennent pas une deuxième fois, mais tous ceux qui ont été guéris sont allés dans les villages, tous les alentours, et les gens de tous les villages arrivent. Amen. Il a prié jour et nuit pendant 6 jours et 5 nuits, sans s'arrêter, sauf pour aller faire pipi. Mais à un certain moment, il m'a raconté ceci. Il m'a dit, une dame arrive. Elle a dit, arrête, au moment avant que je lui impose. Elle m'a dit, arrête. Je dis, mais qu'est-ce qu'il y a? Et elle enlève son pagne et il n'y a rien. Les deux poitrines ont dû être coupées parce qu'elle était malade. Et il a prié pour elle. Choum. Puis tout d'un coup, elle marche et maintenant, alléluia, alléluia. Il dit, qu'est-ce qu'il y a, madame? Regarde, il dit, non! Il a dit, mais allez dans la toilette, à la salle de bain, et ayez une témoin avec vous, une femme témoin avec vous. Et il est allé, et elles avaient repoussé. Amen. Dieu ne retranche pas. Il ajoute. Amen. C'est comme mon fils. Mon fils est né avec 12 doigts et 12 doigts de pied. Oh ! Et je demande à mon médecin, mais madame, il a 12 doigts de pied ? Il a 12 doigts ? Et le médecin me dit, mais monsieur Anzalone, quand on est, c'est toujours mieux d'avoir plus que de moi. On a un Dieu d'abondance, amen. Hello ! Après, on s'est arrangé pour enlever l'excédent quand même. Hein. Hello ! C'est mieux d'avoir 3 reins que 1. Amen. Dieu est le Dieu qui ajoute, amen, pas le Dieu qui retranche. Un jour, un homme vient vers moi. C'était un moment où j'avais demandé aux gens de venir pour la prière devant. Et l'homme vient vers moi et me dit, Pasteur Donato, mon fils est handicapé. Priez pour moi, parce que c'est une honte. Priez pour lui, parce que c'est une honte pour mon ministère. Mais je regarde, je dis, c'est bizarre. Moi, j'ai un enfant handicapé, et ce n'est pas une honte pour mon ministère. En fait, la Bible dit que les enfants sont une bénédiction de Dieu. C'est un héritage de Dieu, une récompense de Dieu. Et il n'est pas dit les enfants en bonne santé. Il a dit les enfants. Les enfants sont un héritage de Dieu, qu'ils soient en bonne santé ou pas. Puis je le regarde, je dis, savez quoi ? C'est pas pour votre fils que je dois prier, c'est pour votre tête. Allô ? Mes enfants, mes amis, Dieu est celui qui ajoute, pas celui qui retranche. Quand vous avez un enfant, vous êtes joyeux, pas malheureux. Lui, il était malheureux. Et si on lui avait enlevé, il allait être joyeux peut-être. Et donc, je raconte ce qui était arrivé. Parce que une de mes ma fille, j'ai trois enfants. Ma fille, quand elle est née handicapée. Elle ne pouvait ni marcher, ni parler. Et n'avait aucune motricité. En fait, les médecins m'ont dit qu'elle ne marchera jamais, elle ne parlerait jamais, et elle n'aurait jamais sa motricité. Et la maladie qu'elle avait était due, enfin, l'handicap qu'elle avait était dû à un virus qui était entré dans le sein de sa mère pendant qu'elle était dans le ventre de sa mère. Et ce virus a détruit les cellules du cerveau. Et ma petite Gabriella n'avait plus les cellules qu'il fallait pour marcher, pour parler et pour la motricité. Le virus qu'elle avait, qui avait détruit cela, s'appelle le CMV, le cytomégalovirus. Et lorsqu'il vient, il est incurable. On ne peut rien faire. Oh, sur le point qu'en Europe, je ne sais pas ici au Canada, mais en Europe, quand une femme est enceinte et qu'elle a le CMV, parce qu'ils font comment on appelle ça, les examens, même à votre insu, ils vont tout faire pour que la femme avorte. Pour vous dire combien était grave cette maladie. Et quand nous avons appris que Gabriella, avec le CMV, nous avions des décisions à prendre. Dites avec moi, décision. Voyez-vous, la vie, elle est faite de décisions. Et les décisions qu'on prend peuvent être bonnes ou peuvent être mauvaises. Sans la foi, il est impossible de croire à Dieu, de plaire à Dieu. Ma première décision était de savoir, est-ce que je vais plaire à Dieu ou est-ce que je ne vais pas plaire à Dieu ? Moi, je ne sais pas pour vous, mais quand j'étais petit enfant, quand je voulais obtenir quelque chose de papa, je faisais tout pour lui plaire. Hello ? Amen ! J'allais chez papa, je dis, papa ! Papa, je t'aime bien ! Papa, tu es le papa de mon cœur. Et donc, on fait tout pour plaire. Alors avec Dieu, on ne doit pas lui lancer des fleurs. Tout ce qu'on doit faire, c'est lui dire, j'ai confiance en toi. C'est tout ce qu'il demande. J'ai confiance en toi. La Bible dit, quel est le rapport, quel est le message que vous allez croire ? Le message de la parole des hommes ? Ou le message de la parole de Dieu. C'est bel et bien ce que nous devions prendre comme décision. Est-ce que nous allions croire ce que les hommes disent avec la connaissance limitée qu'ils ont, ou est-ce que nous allons croire ce que la parole de Dieu dit avec la connaissance illimitée de notre Dieu ? Hello ? Certains disent que le plus grand des miracles, c'est celui de naître de nouveau. Je crois qu'on a tous entendu parler de cette expression. Ça veut dire, à partir du moment où tu crois dans ton cœur que Dieu a ressuscité Jésus d'entre les morts, et tu déclares de ta bouche que Jésus est Seigneur de ta vie, la Bible dit que tu es sauvé, tu es né nouveau. Et si vraiment, comme je le crois, comme je pense la plupart d'entre nous on le croit, c'est le plus grand des miracles, croyez-vous qu'il est incapable de guérir ? Rien n'est impossible à Dieu. Pour l'homme, c'est impossible, mais à Dieu, rien n'est impossible. Amen. Et donc, Annelise et moi, mon épouse, nous avons vraiment dû nous mettre face à face devant la parole de Dieu et croire que Dieu était celui qui voulait encore guérir notre enfant Gabriella. Amen. Sans la foi, il est impossible de lui être agréable. Quand on parle de croire, il y a plusieurs genres de foi. Plusieurs niveaux de foi. Et à part le premier niveau, qui encore peut nous apporter certaines guérisons, chaque autre niveau apporte des guérisons. C'est intéressant. Parce que des fois, on veut tous, « Oh, je veux la foi de Donato. Quoi, c'est extraordinaire. Il a cru. Et sa fille est guérie. » Amen. Ma fille est guérie, hein. Elle est complètement guérie. Elle devait mourir à l'âge de 15 ans à cause du CMV. Elle a 27 ans. Elle est infirmière. Ah! Hello! C'est extraordinaire ce que Dieu peut faire dans la vie de quelqu'un à partir du moment où tu crois. Amen. Mais il y a plusieurs niveaux de foi. Et je vais vous encourager. Tout d'abord, moi, je n'ai pas une grande foi, mais j'ai un grand Dieu. C'est, je crois, la première chose qui nous libère, c'est de savoir que ça ne repose pas sur nous, ça repose sur Dieu. La foi, en fait, c'est la réponse de l'homme à ce que Dieu veut faire dans la vie. Amen. Et donc, on a plusieurs réponses que l'on peut apporter à Dieu. Par exemple, la Bible dit dans Marc au chapitre 6 que Jésus se trouve dans sa ville, à Nazareth. Il est revenu. Ça faisait un bon bout de temps qu'il n'était pas revenu. Il était né là, en fait, à Bethléem. Et après, il a grandi à Nazareth. Puis, il était reparti. Et puis, il est revenu. Et la Bible dit qu'il parlait. Et les gens commencent à dire, mais... c'est pas Jésus, là, celui qui grandissait autour de nous. Ses frères et ses sœurs ne sont-ils pas encore parmi nous? Et la Bible dit qu'il ne put faire là aucun miracle, si ce n'est guérir quelques malades à cause de leur incrédulité. Intéressant. Ils étaient incrédules. L'incrédulité, ça ne veut pas dire qu'ils manquaient de foi. Ça veut dire qu'ils désiraient, ils décidaient de ne pas avoir foi. L'incrédulité, c'est dire « je ne veux pas ». Mais malgré le fait qu'il a dit, ils ont dit, je ne veux pas, Jésus a encore guéri des malades. Il n'a pas fait des miracles, mais il a guéri des malades. Oh, wow! Ce soir, quel que soit le niveau de foi, ou plutôt le genre de foi qu'on a, je peux vous assurer ce soir, Jésus guérira des gens. Alléluia, amen. Des fois, on croit que notre foi va contrôler. Non, c'est Dieu qui te contrôle. Alors, parce que tu crois vraiment, parce que tu es incrédule, que Dieu ne va pas faire ses miracles. Il n'aura peut-être pas fait tout ce qu'il aurait voulu faire, mais il va encore montrer qu'il est plus fort que ton incrédulité. Amen. Et donc là, avec cette petite foi qu'il y avait... il n'a pas fait de miracle, mais il imposa les mains à quelques malades et il les guérit. Écoutez, vous pouvez transporter une foi morte, mais une foi vivante vous transportera. Amen. Alléluia. Ensuite, dans Marc, au chapitre 9, il y a une autre histoire. Vous avez probablement entendu parler de cette histoire. C'est un homme qui a un fils qui a un esprit muet. Mais non seulement cela, mais cet esprit jette son enfant dans l'eau, jette son enfant dans le feu et tout. Et donc, cet homme va vers Jésus et dit, « Jésus, Jésus, viens guérir mon fils. » Et il lui explique ce qui se passe. Il dit, « Je l'ai apporté chez tes disciples, mais ils n'ont pas pu le délivrer. » Et Jésus lui dit, et il dit, « Si tu peux, est-ce que tu peux le délivrer ?» Et Jésus dit, « Si tu peux, si tu peux, toutes choses sont possibles à celui qui croit. » Amen. Crois seulement. Et il dit, « Je crois, mais viens au secours de mon incrédulité. » Ça, c'est du Charlie Chaplin, ça. Je crois, mais viens au secours de mon incrédulité. Comment tu peux croire et être incrédule en même temps? Voyez-vous, on peut le comprendre par la question. Si tu peux, Si tu peux, je crois. Mais viens, je cours de mon incrédulité. Comment est-ce possible de croire et être incrédule en même temps? Qu'est-ce qui va me donner la réponse? Alors, la réponse, on la connaît. Parce qu'il vient, c'est une foi, si tu peux. Et même si c'est une foi, si tu peux, on sait que Jésus guérit l'enfant.
Amen.
Et ça, c'est extraordinaire. Même si ta foi est là, si tu peux, Jésus peut guérir l'enfant.
Amen.
Et il veut guérir l'enfant. Non, pourquoi il a dit, je crois, viens au secours de mon incrédulité? Parce que la Bible dit ceci. Je te le dis en vérité, si tu dis à cette montagne, ôte-toi de là et jette-toi dans la mer, et si tu crois et ne doute point dans ton cœur que ce que tu as dit arrivera, tu verras arriver ce que tu as dit. La foi n'est pas intellectuelle. Elle ne vient pas de la tête, elle vient du cœur. Amen. Non, à partir du moment où il dit « si tu peux », ça veut dire que sa foi était là, dans sa tête. J'ai vu Jésus faire des miracles, j'ai entendu, mais au profond, moi, je doute. Écoutez ceci. On ne peut pas obtenir quelque chose en croyant dans la tête et en doutant dans le cœur. Mais on peut obtenir quelque chose en croyant dans le cœur et en doutant de la tête.
Amen.
On peut obtenir quelque chose quand je crois dans mon cœur, même si je doute dans ma tête. Vous avez jamais vu des gens comme ça? Une fois, j'avais appelé quelqu'un à la prière, elle était venue de moi, et j'ai dit, tu sais, Jésus va te guérir. C'est... Non, c'est pas possible. Je dis, mais oui, Jésus dit, oh, c'est pas possible. Et je crois que la personne était boiteuse ou quelque chose. Non, c'est pas possible. Je dis, mais oui, Jésus te guérit maintenant. Non, non, c'est pas possible. Je dis, marche. Elle était guérie. Dans la tête, elle n'y croyait pas. Mais dans son cœur, elle était certaine que Jésus la guérissait aujourd'hui. Amen. Voyez-vous, quelquefois, on se demande, mais où elle est ma foi? Où se situe ma foi? Et il y a des gens qui disent, je sais, si tu peux, si jamais tu pouvais. C'était Smith Wigglesworth qui chantait, crois seulement, toutes choses sont possibles, crois seulement, alléluia, crois seulement, toutes choses sont possibles, crois seulement. Et remarquez qu'il a croyé dans sa tête, mais pas dans son cœur. Mais le fait qu'il a eu l'audace d'en parler à Jésus, la foi qui était dans sa tête est descendue dans son cœur. C'est un petit peu comme Isaac Newton. Qu'est-ce qu'il a inventé comme théorie ou comme loi? La loi de la gravité. Juste pas la relativité, c'est moi qui me suis trompé. La loi de la gravité. Non, comment a-t-il découvert la loi de la gravité? En tout cas, c'est la légende qui dit ça. Vous vous rappelez comment on fait? Il est assis devant ce pommier, et tout d'un coup, une pomme tombe sur sa tête, bop! Et il a découvert. Alors, il avait vu toute sa vie des pommes tomber. Il savait très bien qu'une pomme arrivée à maturité, si on ne la prend pas, pop, tôt ou tard, elle descend. Il le savait là! Mais lorsque la pomme est tombée sur sa tête, boum, la connaissance qu'il avait dans sa tête boum, s'est enfoncée dans son cœur. Alléluia! Et c'est un petit peu ça qu'on doit faire. Aujourd'hui, quand vous êtes face à la réalité de la parole de Dieu, tout ce que vous connaissez dans votre tête va un jour tomber dans votre cœur. Aujourd'hui, il n'y a plus comme ça parce qu'on a tous nos téléphones portables. Mais rappelez-vous, avant, on avait des cellules, des cabines téléphoniques, on mettait des sous et il fallait que ça fasse chlic pour qu'on puisse avoir le son pour téléphoner, n'est-ce pas? Et des fois, ça ne faisait pas chlic. Qu'est-ce que vous faisiez? Tu vas t'enlever, toi! Et on bousculait et le téléphone, boum, 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 et puis chlic. Ah, allô, chérie, je t'aime! Well, c'est un petit peu comme ça avec Dieu. Avoir de l'information, c'est bien. Mais tôt ou tard, il faut que cette information descende de notre tête et entre dans notre cœur et devienne une révélation. Waouh! Et donc, cet homme avait cette foi, si tu peux, mais elle a réussi en fin de compte. Waouh! Puis, il y a une autre histoire, toujours dans Marc. C'est marrant, c'est toujours dans Marc. Marc au chapitre 1, les versets 40 à 42, pour ceux qui veulent aller voir, c'est un homme, il est lépreux. Et il vient vers Jésus et dit, si tu veux, je sais que tu peux. Donc, c'est déjà une foi qui est fondée. Je sais que tu es capable, mais je veux savoir si tu le veux vraiment. Et souvent, c'est là où on arrive. On se retrouve la plupart de nous dans nos églises en sachant que Dieu peut, mais on n'est pas toujours convaincu que Dieu veut. Souvent, c'est écrit dans les points de la foi de l'église, Jésus guérit les malades, mais dans la réalité de tous les jours, on se dit, ouais, peut-être qu'il ne veut pas. Il peut, mais peut-être qu'il ne veut pas. Mais voyez-vous, les niveaux de foi différents que je vous donne sont des niveaux qui se construisent l'un sur l'autre. Et l'objectif, c'est d'arriver à une foi qui est parfaite. La Bible dit que Jésus est l'auteur et le consommateur de notre foi. Le mot consommateur veut dire celui qui la rend à perfection. Et donc, il dit, je sais que tu peux, mais est-ce que tu veux ? Voilà, si ce soir tu es là, avec cette foi-là, je veux que tu saches que Jésus va te montrer que non seulement il peut, mais qu'il le veut. J'étais en Italie il y a quelque temps, et là, j'avais plusieurs réunions où on a commencé à prier pour les malades, on a eu vraiment des guérisons formidables. Et puis il y avait la nièce du couple responsable qui m'avait invité, qui sont des amis de presque 40 ans, et elle n'a pas osé, pendant la réunion, venir devant pour la prière. Mais elle a dit à sa tante, « Ça va si demain je passe à la maison ?» Heureusement que la tante était pleine de compassion. Moi, j'aurais dit « Non !» Mais la tante, c'est bien sûr, elle était pleine de compassion. Et bien sûr, moi, j'étais tout à fait content qu'elle vienne. Et elle avait de la fibromyalgie, des douleurs constantes dans tout le corps. Et donc, j'ai prié avec elle. Elle était convaincue que Dieu pouvait. Elle n'était pas si convaincue que Dieu voulait. Voyez-vous, trop souvent, on pense que Dieu ne veut pas à cause de nos faiblesses, à cause de nos points faibles, parce qu'on est peut-être rempli de défauts, peut-être parce qu'on n'est pas aussi bien que ce qu'on voudrait l'être. Mais on doit toujours se rappeler une chose. C'est lorsque Dieu nous regarde, il nous regarde toujours à travers le sacrifice de Jésus-Christ sur la croix. En fait, au ciel, Jésus était venu et il a porté son sang au ciel. Le sang de Jésus qui a été versé afin que vous et moi, nous puissions être sauvés et pouvoir vivre un jour la vie éternelle. La Bible dit que le diable est l'accusateur des frères. Et vous pouvez être convaincu que tous les jours, le diable nous accuse devant Dieu. Mais là-haut, pour l'éternité, il y aura toujours le sang de Jésus comme témoin éternel que Jésus est mort pour chacun de nos péchés. En fait, j'ai presque l'impression que Jésus, là-haut, à son trône, a un tic. Vous savez, c'est quoi un tic ? C'est quelque chose qu'on fait presque automatiquement. Et je crois qu'un des tics de Jésus, c'est celui-ci. Chaque fois que Satan parle, Jésus fait « Papa !» et lui montre le sang de Jésus. Amen. Toute la journée. Hein. Mais ce petit tic-là, c'est le tic qui vous sauve. C'est le tic qui vous pardonne. C'est le tic qui vous guérit. Amen. Écoutez, si c'était sur la base de nos mérites, il n'y a personne qui mérite. mais sur la base de l'éthique.
Amen.
Et Jésus est encore là ce soir pour guérir. Peut-être que tu te poses cette question. Je sais que tu peux, mais est-ce que tu veux? C'est la seule personne dans la Bible qui pose la question à Jésus. Et c'est probablement la seule personne qui n'était pas certaine. Mais la bonne nouvelle, c'est que Jésus était certain. Jésus l'a rendu certain en lui disant, je le veux. Et il leva la main et il le guérit en le touchant. Amen. Ensuite, il y a toujours une histoire dans Marc, toujours, c'est au chapitre 5 cette fois-ci. Et je crois que vous connaissez cette histoire, c'est une femme qui avait une perte de sang. Et elle avait entendu parler de Jésus. Et un jour, elle a dit ceci. Quand Jésus arrive, si je peux seulement toucher le bord de son vêtement, je serai guérie. Si seulement je peux toucher le bord de son vêtement, je serai guérie. Et un jour, Jésus est arrivé. Elle s'est frayé un chemin. Elle a touché le bord du vêtement de Jésus et elle a été guérie. Et j'appelle ça une foi si je peux. Une foi si je peux. Dites-le avec moi, si je peux. Ouais, si je peux. À un certain moment, la Bible dit qu'après cette histoire-là, dans Matthieu, des foules entières ont demandé à Jésus s'il pouvait toucher son vêtement. Et la Bible dit tous ceux qui le touchèrent furent guéris. Aujourd'hui, tu peux encore toucher le vêtement de Jésus-Christ. Tu peux dire si je peux, si je peux, si je peux. Si seulement je peux voir, si seulement je peux entendre, si seulement je peux saisir ce soir, eh bien, saisis par la foi. Dis, je le reçois par la foi. Si je peux, je serai guéri. Oh, elle, c'était si je peux toucher son vêtement. Peut-être toi, c'est si je peux entendre un mot. Le mot d'une personne, je serai guéri. Amen. Quel que soit ce que tu as besoin ce soir, tu peux dire, si je peux, je serai guéri. Un jour, je me retrouve au Canada. Tiens, vous connaissez. J'étais à Toronto. Dans les environs de Toronto. Et une femme, elle est très, très malade. Et tout ce qu'elle veut, c'est de rentrer à Toronto et se reposer. Elle n'en peut plus. Mais sa mère lui dit, « Oh, chérie, il faut que tu viennes dimanche à l'église avec moi. » Parce qu'il y a un prédicateur de Suisse, il s'appelait Anzalone, c'était moi apparemment, et il prie pour les malades. « Il faut que tu viennes. » Elle dit, « Je n'ai pas envie. » Elle voulait qu'une chose, c'est s'aliter et rester. Et ils ont insisté. Aliter et rester. Elles sont insistées. Et finalement, la mère et la fille ont tellement insisté qu'elle a dit, OK, je vais essayer d'y arriver. Et ils sont là pendant la soirée alors que je prêche. Et à un certain moment, c'est le moment où je demande aux personnes qui sont là de s'avancer. Et elle est transportée littéralement par les épaules, par la maman et par sa fille. Elle arrive devant moi, comme ça. Presque pas de vie en elle. Je dis, madame, qu'est-ce qui se passe ? Elle est en train de mourir. Elle était vraiment au bout du rouleau, mais ce soir, elle a pu venir. Si tu peux, je serai guérie, n'est-ce pas ? Et donc, elle m'a pas dit ce qu'elle avait comme maladie. Il faut pas toujours qu'on dise tout. Dieu connaît tout de toute façon. En tout cas, dans ce cas-là, je n'avais pas besoin. Et j'ai imposé les mains sur cette dame. Et je lui ai dit, madame, allez, vous êtes guérie. Elle regarde. Ah, d'accord. Elle s'en va. Transportée par la mère et par la fille. Imaginez-vous tout ce qui sort dans sa tête. Je suis guéri. Il n'a rien compris, celui-là. Il est aveugle, peut-être. Cette semaine, elle va chez le médecin. Elle fait des examens. Elle exige des examens. Et ensuite, quelques semaines plus tard, elle m'écrit. Ce qu'elle me dit est confirmé par son pasteur. Plus tard, je retourne plusieurs fois dans sa même église et elle est toujours là. Elle me raconte. J'avais un fibrome au pancréas, gros comme une balle de tennis. et j'avais des polypes partout dans le corps, à l'intérieur. J'étais exténué et littéralement, je me sentais mourir. Mais puis vous m'avez dit, vous êtes guéri. Et j'ai cru. Et je suis allé chez le médecin. La première semaine, quand elle est allée chez le médecin lui a dit, il n'y a plus rien.
Amen.
Amen. Gloire à Dieu.
Amen. Dieu est grand. Mais Dieu travaille avec votre foi. Elle a montré par sa détermination à venir, malgré qu'elle ne voulait pas. Mais heureusement qu'elle avait une mère et une fille qui l'aimaient assez pour la convaincre de venir. Et elle est venue. Elle est partie. Et elle était guérie. Amen. Amen. Voyez-vous, le Seigneur connaît votre foi. Ce qui compte pour nous, c'est de nous savoir où elle est notre foi et savoir comment faire. Et la cinquième niveau de foi, c'est une autre histoire dans la Bible. Je pense toujours en Marc, je devrais aller voir dans mes notes tout de suite. Mais c'est un homme qui est aveugle. Il s'appelle Bartimée. Vous connaissez l'histoire de Bartimée ? On l'appelle Bartimée l'aveugle, n'est-ce pas ? Quand vous allez au ciel, si vous lui dites c'est toi Bartimée l'aveugle, bah, qui va vous dire, ça fait bien longue lurette que je ne suis plus aveugle. Mais c'était un homme qui disait, laissez-moi y aller. Je crois, je veux. Je crois, je veux. C'était une foi conquérante. La Bible dit qu'il criait quand il a entendu parler que Jésus était là. Il a dit, Jésus, fils de David, aie pitié de moi. Et les disciples lui disaient, tais-toi, tais-toi. Tais-toi, tais-toi, tais-toi. Et plus il lui disait tais-toi, plus il criait plus fort, Jésus, fils de David, aie pitié de moi. Et mes amis, il y a un moment où quand on sait que ce que la Bible dit, il y a un moment où plus rien ne peut nous arrêter. Amen. Et quand on m'a dit que ma fille ne marchera jamais, qu'elle ne parlerait jamais, qu'elle n'aurait aucune motricité et qu'elle devait mourir à l'âge de 14-15 ans, je vous assure, ma femme et maman, on n'a pas hésité longtemps, vous savez. On a dit, tais-toi ! Tais-toi ! Je peux ! Je veux ! Je vais le prendre ! Laissez-moi le faire ! Mes amis, on doit arriver dans notre vie à une certaine détermination où on sait que l'on sait que Dieu est avec nous et que Dieu veut nous aider. Amen. Hein? Vous savez, vous, oui, c'est toujours dans Marc au chapitre 10. Vous savez, les principes de la foi sont enseignés, mais l'esprit de foi doit être capté, attrapé. Amen. Les principes de la foi sont enseignés, mais l'esprit de foi doit être capté. Waouh ! Et il criait beaucoup plus fort. Voyez-vous, il avait une attitude dans sa foi. Les gens étaient contre, mais lui continuait, et il continuait, et il continuait. Plusieurs fois, les gens nous ont dit, oh, « Monsieur Donato, vous devez accepter le fait. Votre fille ne marchera jamais. Votre fille ne parlera jamais. » Elle ne pourra jamais prendre correctement les choses en main. Quand je l'ai apportée chez le kinésithérapeute, parce que la seule chose qu'on pouvait faire, c'est une physiothérapie, pour que ses membres ne se raidissent pas. Et la kiné, qu'on connaissait très bien, c'était pas une amie, bon, c'était notre kiné à nous quand on en avait besoin. Lorsqu'elle a vu Gabriel, elle a dit, je ne peux rien faire avec ça. En flamand, elle a dit, je ne sais rien faire avec cette chose-là. Elle était désespérée. Mais il y avait quelqu'un qui n'était pas désespéré. Et son nom est Jésus. Peut-être que vous êtes désespéré aujourd'hui. Mais Jésus n'est pas désespéré. Il y a quelque temps, j'étais dans le Minnesota. Et là, le pasteur m'a dit, « Pasteur Donato, je n'ai pas besoin de prêche. J'ai besoin de guérison dans mon église. » Il dit, je me dis, oh oh. Il dit, je peux avoir des prédicateurs à l'appel, autant quand j'en veux. Mais mon église est malade. C'était un pasteur qui était un apôtre. Il avait plus de 80 ans, qui a repris une église, comme celle-ci à peu près. Mais cette église qu'il a reprise était une église très malade. il y avait des tas de choses et il y avait des maladies qui s'étaient installées. Énorme. Je peux dire que sur 80-85 personnes, au moins 75 personnes étaient malades. Il dit, je n'ai pas besoin de prédicateur. J'ai besoin de quelqu'un qui prie pour le malade et qui guérit. Bien sûr, je lui dis, pasteur, moi, je ne peux pas guérir, c'est Jésus qui guérit. Hein. Oui, je sais, qui dit, je sais, je suis pasteur, je sais. Mais je lui dis, vous me donnez quand même 20 minutes, 20 petites minutes pour que je puisse construire la foi des gens. 20 petites minutes. OK. Et donc, il est là, je prie, je prêche et tout. Et au bout de mes 20 minutes pile, je dis aux gens de venir, tous ceux qui sont là. 80% de l'église est arrivée. Et puis le premier, oh mamma mia, j'aurais voulu que ce soit un mal de tête. C'est un enfant, il a 8-9 ans. Il était ici avec sa maman et son papa à côté. Un enfant qui n'a jamais couru de sa vie. Il savait marcher correctement, mais la moitié droite de son corps était tout affaibli dans ses muscles, au point que lorsqu'il courait, eh ben, ça ne suivait pas. Et il se croisait les jambes et il tombait. À 8 ans, 9 ans, il n'avait jamais couru de sa vie. Et sa maman me dit tout ça. Et puis je lui dis, au petit, je peux prier pour toi ? Et il me regarde. L'air de dire, et on me l'a demandé tellement de fois, on l'a fait tellement de fois. Et je dis, mais s'il te plaît, laisse-moi prier pour moi. C'est sa mère qui lui a dit venir, vous comprenez ? Puis sa maman lui dit, allez chérie, fais-le pour moi. Ok. Et puis je me mets à genoux pour être plus ou moins à sa taille. Et je le serre dans mes bras. Et pour la première fois, il m'est venu quelque chose que je n'ai jamais eu auparavant. Vous savez, je suis un gars, je suis très ému de compassion quand je vois la souffrance des gens. Je crois que quand on a eu une situation dans la maison telle que celle que ma fille avait eue, c'est un peu difficile de ne pas être sensible à la souffrance des autres. Mais cette fois-là, je l'ai pris dans mes bras pendant 3, 4, 5 minutes. Tout ce que je faisais, c'était le serrer dans mes bras. Et toute la compassion que j'avais ne suffisait pas pour apporter la guérison. Et je suis arrivé à un bout où je n'avais plus de compassion. J'avais tout donné. Mais j'ai continué à le serrer dans mes bras. Et tout d'un coup, ce n'était plus ma compassion, mais c'était la compassion de Dieu qui traversait à travers moi. Et je peux vous assurer, j'ai vu la différence. C'est extraordinaire ce qu'un homme peut avoir ou une femme peut avoir comme compassion. Mais c'est rien à côté de la compassion de notre Père. La Bible dit qu'il est le Père de toute compassion. Et donc, pratiquement au bout de 8-9 minutes, les gens regardaient et disaient, qu'est-ce qu'il fout celui-là ? Au bout de 8-10 minutes, je savais que ce que Dieu devait faire, il l'a fait. Et je me suis levé et je dis, petit, cours maintenant. Et on regarde là-dedans. Voyez-vous, ce qui se passe avec beaucoup de gens, c'est qu'ils veulent sentir avant de croire. Rappelez-vous, la femme qui avait la perte de sang, la Bible dit qu'aussitôt, l'hémorragie, la perte de sang, c'est ça. Et ensuite, il est dit, et elle sentit qu'elle était guérie. La foi est venue avant le sentir. Vous croyez, même si vous ne ressentez pas. Comme il n'a rien ressenti, c'est comme si c'était un petit robot. Hein, tout là pour... mais la compassion de Dieu a fait son boulot. C'est ça qui est important. Puis de nouveau, sa mère lui dit, allez chérie, fais-le pour papa et maman. Tout d'un coup, il commence à courir. Au bout de 3 pas, sa mère et son père pleurent. Lorsqu'il est arrivé au bout de l'église, c'est toute l'église qui pleure. Et il est revenu en courant sans tomber. C'est incroyable, c'est extraordinaire. Je ne vais pas dire le mot incroyable, c'est extraordinaire. Amen. Dès qu'il est parti, il est allé jouer, il y avait un grand pré, mais une prairie énorme, et il est allé jouer avec tous les enfants. Je priais pour les gens pendant plus de 2 heures ce soir-là. Au bout d'une heure et demie, je demande, allez, votre fils, comment ça va? Oh, il dit, ça fait 1 heure et demie qu'il court, il ne s'arrête pas. Allô? Voyez-vous, le même Dieu qui était là est ici ce soir.
Amen.
Certains d'entre nous, on veut toujours voir des grandes choses. Ou alors on arrive à un autre niveau de foi. C'est un homme qu'on appelle centurion. On ne connaît pas son nom. Mais il avait un serviteur qui était malade. Et on sait dans l'histoire romaine que beaucoup d'esclaves qui appartenaient aux Romains faisaient littéralement partie de la famille de ces gens-là. Il y a une histoire où, on connaît cette histoire où cet homme marche dans la rue, c'est un notable, et il pleure. Et quelqu'un a dit, bonjour, Rufus, je lui donne un nom comme ça, pourquoi tu pleures? Et l'homme en pleurant dit, parce que mon esclave est mort ce matin. Nous on pense esclave, vous savez, les gens qu'on fouette, c'était pas comme ça à l'époque. En tout cas, dans ces familles-là. C'était vraiment comme des gens, c'était comme une caste sociale, mais il y avait souvent cette relation presque intime dans cette famille. Et donc cet homme vient vers Jésus et dit, Jésus, Jésus, mon serviteur est malade. Et Jésus dit, je m'en vais le guérir. Et lui dit, non, non, ne viens pas. Mais il dit un mot, et mon serviteur sera guéri. Dis un mot et mon serviteur sera guéri. Et la Bible dit que Jésus fut dans l'étonnement parce qu'il n'avait jamais vu, même parmi les fils d'Israël, une foi aussi grande. C'est intéressant parce que la toute première, c'était, rappelez-vous, et Jésus fut étonné parce qu'il ne put faire de grands miracles à cause de leur intégrité. 2 fois, Jésus, dans les évangiles, est étonné. 1 fois, c'est à cause de l'incrédulité. La 2e fois, c'est à cause de la foi grande de cet homme-là. Un mot, et mon serviteur sera guéri. Écoutez, la parole de Dieu dans la bouche d'un serviteur de Dieu, c'est comme si c'était la parole dans la bouche de Jésus. La parole de Dieu dans la bouche d'un membre de l'Église, quand elle est prononcée avec foi, c'est comme si c'était Jésus qui l'a prononcée avec foi. Moi, je ne sais pas pour vous, hein, mais si Jésus me dit « je viens chez moi », je dis « viens, yes, viens ». Lui, il dit « non ». Mais si j'ai ta parole, j'ai tout ce que j'ai besoin. Ce soir, la parole de Dieu est ici, mes amis. Et vous avez tout ce dont vous avez besoin avec la parole de Dieu. Amen. Tout ce dont vous avez besoin est là. Si ce soir, vous avez quelque chose qui ne va pas, je vais vous le dire, ce soir, vous pouvez obtenir votre guérison.
Amen.
Ma fille n'a pas été guérie du jour au lendemain. C'était un processus de pratiquement 2 ans. 2 ans, on a dû constamment dire un mot, et ma fille sera guérie. Et ce mot, c'était moi qui le disais. Allô? C'est pas que Jésus l'a derrière la porte et dit, Suzy, je te guéris. Marc, je te guéris. Non. Jésus dit des mots aujourd'hui, mais il le dit à travers votre bouche. Et donc, ma femme et moi, tout ce qu'on a fait, c'est prendre la décision. Je vous dis, tout est une décision. Et on a pris la décision de dire des bonnes choses à Gabriella. Depuis qu'elle était toute petite, tout bébé. Gabriella, par les meurtrissures de Jésus, tu es guérie. Gabriella, tu marches, tu parles, tu danses, tu cours, tu joues, tu parles plusieurs langues. Hello? Gabriella, tu es un don parfait, excellent, qui vient du Père des Lumières, chez lequel il n'y a point ombre de changement. Gabriella, l'Éternel est celui qui te guérit. Gabriella, tu es la première et pas la dernière. Tu es la tête et pas la queue. Gabriella, tu es guérie. Gabriella, tu es l'enfant de Dieu que Dieu a choisi et tu es guérie, etc. Et on a utilisé les versets que l'on connaissait dans la parole de Dieu. L'Éternel est ton berger, tu ne manqueras de rien. Tu vas marcher, tu marches. Je ne disais pas que tu vas, je dis tu marches. La Bible dit que Dieu appelle les choses qui ne sont pas à l'existence. Dis un mot! Et il a dit, ton serviteur est guéri. Il appelle les choses qui ne sont pas à l'existence. Il appelle les choses qui ne sont pas à l'existence. Gabriela ne pouvait pas marcher, elle ne pouvait pas parler, elle ne pouvait pas chanter, elle ne pouvait pas ceci, elle ne pouvait pas cela. Mais nous disions, tu peux ceci, tu peux cela, tu peux ceci, tu peux cela, tu peux ceci, tu peux cela. Hello ? Qu'est-ce qu'on faisait ? On est entré dans le club de Dieu. Hello ? On appelait les choses qui ne sont pas à l'existence. La femme qui est venue, je suis en train de mourir. Qu'est-ce qu'on a fait ? On a appelé les choses qui ne sont pas à l'existence. On a dit, tu es guéri. Il y a quelque temps, j'étais en Belgique. En Belgique, c'est en Europe. Hein. Je suis belge, attention, un bon belge. Allez, je vous assure, je suis un vrai belge, moi, comme lui. Et c'est marrant parce que j'ai vu ces deux enfants. J'ai dit, vous, c'est des bons belges, vous, hein? Oui, oui. Et j'étais en Belgique. Et là, il y avait cette femme qui était en chaise roulante. Une jeune fille, d'avoir peut-être 30, 32 ans. Elle était en chaise roulante. Elle savait marcher, hein, avec béquilles, très difficilement. Comme ça. Problème de musculature dans ses jambes et tout. C'était une longue histoire. Et je lui dis, OK, tu sais quoi ? Ce soir, tu marches à Bruxelles. Et je dis, tu marches ce soir. Et donc, je prie avec elle. Je commence à parler à son corps. Je dis, corps, tu es guéri dans le nom de Jésus. Elle marche, etc. Et tout. Et puis, je lui dis, est-ce que tu es d'accord de te lever ? Alors, on va essayer. Alors, je vous dis, je suis honnête, hein. Elle pouvait marcher avec des béquilles. Mais je lui dis, au lieu de marcher avec des béquilles, tu mettais ton bras sur ma main. Tu veux essayer ?
Ah,
oui, oui. Non, mieux.
Ah, ok,
excuse-moi. Non, mais c'est pas un problème. Et, appuie-toi bien. Doucement. C'était comme ça. Ça va ? Oui, merci, c'est moi qui porte tout le poids. Et je dis, attends. J'ai dit, continue. Et alors, on continue. Et tout d'un coup, comme ça maintenant, tu marches un peu en difficulté, mais tu marches quand même. Et petit à petit, elle s'appuie moins. Je dis, regarde. J'ai dit, attends, continue. Et puis je commence à le tenir par le bout du doigt. Oh, c'est super. Et puis je dis, regarde. Ah, Cathy, c'est super. Hello. Elle ne s'est pas assise. Elle était contente de marcher, maintenant elle s'assied. Elle ne s'est pas assise. Après, je lui dis, tu sais quoi, pendant que je prie pour les autres, pourquoi tu ne fais pas 5-6 fois le tour de la salle ?
Amen.
Alléluia ! Ça marche ! Alléluia ! Oh, gloire à Dieu ! C'était encore difficile, il ne faut pas oublier qu'elle avait problème musculaire. Mais elle marchait, elle n'avait plus besoin de ses béquilles. Hey, on appelle les choses qui ne sont pas à l'existence.
Amen.
Je pourrais raconter d'autres histoires, mais ce qu'on va faire ce soir, c'est qu'on va situer chacun de nous le niveau de notre foi. Et on va se dire, Seigneur, peut-être que j'ai une foi, si tu peux. Une foi, si tu veux. Une fois, laisse-moi faire! Je vais y arriver! Alléluia! Si seulement je peux!
Amen.
Mais tôt ou tard, quelle que soit votre foi, la Bible dit, si vous avez la foi, pas plus grande qu'un grain de sénévé. Vous savez, quand vous faites vos petits doigts comme ça, hein, et vous avez un tout petit trou, le grain de sénévé, il rentre à peine dedans. Et encore, il tombe. Tellement il est petit. Si vous avez la foi comme un grain de sénévé, vous vous direz à cette montagne, ôte-toi de là, jette-toi dans la mer. Et si tu crois et ne doutes point, et tu ne doutes point dans ton cœur que ce que tu as dit arrivera, tu auras ce que tu as dit. Amen. Levons-nous, s'il vous plaît. Je veux prier avec vous. Alléluia. Peut-être que ce soir, vous êtes ici et vous avez besoin de guérison, quelle qu'elle soit. Quelles que soient les maladies qui sont là ce soir, les handicaps, on a un Dieu qui est grand. Lorsque ma fille était en cours de soins infirmiers, en première année, j'étais en Autriche pour le ministère avec mon épouse. Elle était en première année, troisième semaine, cours de virologie. Et elle entend parler sur le CMV. Et on lui dit, il n'y a aucun espoir. Infirmière, lorsqu'une femme a le CMV, vous devez tout faire pour presque la forcer à avorter. Et elle est là. Et elle pleure. Elle pleure. Parce qu'elle se rend compte qu'elle avait le CMV quand elle était dans le ventre de sa mère. Mais que Dieu l'a guérie complètement. Et alors qu'elle pleurait, les copines et les copains de classe lui ont demandé « Mais pourquoi elle pleure ?» Et elle a eu l'occasion de donner son témoignage de ce que Jésus a fait dans sa vie. Ce soir, vous pouvez devenir un témoin de Jésus-Christ, de ce qu'il veut faire dans votre vie. Regardez pas aux hommes, mais regardez à Jésus. Peut-être vous dites, oui, mais moi, je ne suis pas encore là dans ma foi. La bonne chose, c'est qu'il est l'auteur et il est le consommateur. Il est celui qui perfectionne ta foi. Toute cette soirée, le peu de temps qu'on a parlé ensemble, Jésus l'a utilisé pour construire et perfectionner ta foi. Alors, si vous êtes malade, si vous avez un problème physique, quel qu'il soit, venez devant. Nous allons prier avec vous. Amen. Avant que vous veniez, je veux toutefois faire une question. Y a-t-il quelqu'un parmi vous, et je vous demanderai à tous de fermer les yeux, y a-t-il quelqu'un parmi vous, et vous ne connaissez pas Jésus-Christ comme le Seigneur et le Sauveur de votre vie? Peut-être vous vous dites, oui, je ne sais pas si je devais mourir aujourd'hui, si j'irai au ciel. Well, ce soir, Dieu veut te donner aussi cette assurance que le ciel peut être ta destinée si tu places ta vie entre les mains de Dieu. La Bible dit que pour être certain d'être candidat pour le ciel, la Bible dit que il faut deux choses principalement. La première, c'est de croire dans votre cœur que Dieu a ressuscité Jésus d'entre les morts. Et la deuxième, c'est de confesser de votre bouche, de le déclarer, Jésus est le Seigneur de ma vie. Et la Bible dit, quand vous faites cela, vous serez sauvés. Et en fait, vous commencerez une nouvelle vie, un chemin de foi qui vous conduira jusqu'au ciel. Donc ma question est celle-ci. Est-ce qu'il y a quelqu'un ici qui n'a jamais fait de Jésus le Seigneur de sa vie? Certains vont dire, oui, mais moi je crois. Oh, d'autres vont dire, moi je crois depuis tout que je suis tout petit. C'est bon de croire. Mais rappelez-vous, les démons croient et ils tremblent. Ça ne suffit pas de croire en Dieu. Il faut que vous croyez que Dieu devient votre Seigneur. Vous croyez dans votre cœur et vous déclarez de votre bouche, je fais de Jésus le Seigneur de ma vie. Y a-t-il quelqu'un ce soir et vous voudriez faire de Jésus le Seigneur de votre vie? Croire dans votre cœur et déclarer par votre bouche. Si c'est le cas, je vous demanderai là où vous êtes de lever la main pour dire oui, moi, je veux recevoir Jésus comme le Seigneur et le Sauveur de ma vie. Merci. Y a-t-il quelqu'un d'autre? Y a-t-il quelqu'un d'autre qui veut... Oui, levez la main bien haut pour que je la voie. Merci, madame. Merci, monsieur. Quand vous l'avez levée, vous pouvez la descendre. Merci. Y a-t-il quelqu'un d'autre? Vous voulez faire de Jésus. Vous voulez avoir l'assurance. Oui, merci, monsieur. Que si... Merci, mademoiselle. Que si vous deviez partir de ce monde aujourd'hui, que vous sachiez que vous n'irez pas en enfer, mais que vous iriez vers Jésus-Christ. Merci, madame. Y a-t-il encore quelqu'un d'autre? Hallelujah. C'est formidable. Est-ce que je peux demander à ceux qui ont levé la main d'avoir le courage de venir devant pour que je puisse prier pour vous d'une manière toute particulière? Je veux vous donner cet honneur. Y a-t-il quelqu'un? N'ayez pas peur. Voilà, merci. avancez, n'ayez pas peur. C'est important. C'est la plus grande... Merci, restez là. Restez là-bas. Merci, c'est gentil. C'est la plus grande décision de votre vie. Amen. Excellent. Formidable. Formidable. Y a-t-il quelqu'un d'autre qui veut lever la main, qui a levé la main? Venez devant, voilà, merci beaucoup. Merci bien. Y a-t-il quelqu'un d'autre? Écoutez, mes amis. Je peux aller au ciel malade, mais je serai au ciel. Et je vous assure, c'est mieux aller au ciel malade qu'en enfer guéri. Ce soir, ils iront au ciel guéris et guéris. Amen. Parce que s'ils sont malades, Dieu va leur apporter la guérison aussi. Amen. La Bible dit, si vous croyez dans votre cœur que Dieu, le Père, a ressuscité Jésus d'entre les morts, et vous déclarez par votre bouche, je fais de Jésus mon maître, mon Seigneur, vous serez sauvés. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi? Vous êtes d'accord de faire cela? Peut-être que vous avez déjà une fois prié ça, mais on va le faire encore, si c'est le nécessaire. Parce qu'on veut croire que le ciel devient votre destinée. Qu'il y ait une paix qui entre dans vos cœurs et qui vous libère et vous donne l'assurance du salut. D'accord? Alors ce que je vous demanderai, et je demanderai à tout le monde dans la salle, c'est de prier à voix haute après moi. Ceux de la salle vont prier avec vous pour vous encourager. D'accord? Hein? Et l'idéal, c'est que vous fermez les yeux, ça va vous aider un petit peu à vous concentrer. Si en fermant les yeux vous tombez, dites-le moi, je vous retiens. Hein? Ah! Mais dites avec moi, Père Céleste, je viens à toi ce soir. Je crois dans mon cœur que tu as ressuscité Jésus d'entre les morts. Et je déclare de ma bouche. Vous le dites aussi. Et je déclare de ma bouche que Jésus est le Seigneur de ma vie. Je tourne mon dos au diable pour me tourner vers Jésus. Merci de me purifier de tous mes péchés et de m'accepter dans ta famille. À partir de ce soir, je suis un enfant de Dieu. Les choses anciennes sont passées. Et voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Dans le nom de Jésus. Amen. 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 Seigneur, dans le nom de Jésus.